Mandrin. Deuxième partie, chapitre 19. La messagère. En son château des aigles, Bourré-d'Érigny savourait sa victoire. Le procès de Mandrin, commencé à Valence, tirait à sa fin. Nicole, enfermée dans un couvent, grâce à une lettre de cachet dont il s'était muni d'avance, allait expier pour longtemps, pour toujours peut-être, son amour pour le grand révolté. Et dès l'exécution de Mandrin, qui ne pouvait être qu'imminente, il comptait reprendre la route de Paris, où ses collègues ne manqueraient pas de lui réserver un chaleureux accueil. Cependant, le fermier général était loin de goûter une joie sans mélange. Malgré toute sa volonté d'en finir avec une passion qui avait déjà si grandement bouleversé sa vie, il n'avait pu réussir à lui imposer entièrement silence. Par instant, il se sentait attiré par une force irrésistible vers celle qu'il avait si odieusement séquestrée. Plusieurs fois, il avait été sur le point de se rendre auprès d'elle. Mais il était trop avisé pour ne pas prévoir l'inutilité d'une pareille démarche. Soit qu'il la suppliât, soit qu'il la menaçât, Nicole était bien perdue à jamais pour lui. Ce renoncement définitif n'était pas sans le déchirer plus qu'il ne voulait se l'avouer à lui-même. Parfois, une crainte l'empoignait, celle que le souvenir de Nicole demeura si puissant en lui qu'il ne put jamais la bannir de sa pensée, et qu'il fut condamné, pour toujours, à sa cruelle et lancinante hantise. Tel était l'état d'esprit du financier, lorsqu'un laquais se présenta à lui, annonçant « Une dame est là, qui demande à être reçue par votre seigneurie. Vous savez bien, répliquait M. d'Érigny, que j'ai donné l'ordre de ne laisser entrer personne. » Mais une voix claire vibra dans le salon. « Ces ordres, je prends sur moi de les enfreindre. » Bourré-d'Érigny eut un cri de surprise. Sur le seuil, il venait de reconnaître la marquise de Pompadour, qui, dans un gracieux costume d'Amazone, le regardait d'un air d'autorité souveraine. « Comment, vous, marquise, fit-il, vous ici ?»« Oui, moi, scandait la favorite en s'avançant vers lui. « Excusez-moi, marquise, se ressaisissait le financier, mais je ne pouvais prévoir l'honneur d'une pareille visite. « Que justifie cependant, coupait sèchement la marquise, les procédés dont vous vous êtes rendu coupable envers certains membres de ma famille ?» Bourré se mordit les lèvres. Il n'avait pas prévu une intervention aussi directe. Faisant appel à tout le sang-froid qui lui était indispensable en face d'une adversaire de si grande envergure, il répliquait sur un ton plein de respect, mais sous lequel il laissait deviner, en même temps que sa haine et sa rancune, sa volonté de mener jusqu'au bout le combat. « Je crois deviner, marquise, que vous ignorez les motifs que mon... je ne dirais pas inspiré, mais commander les mesures que j'ai cru devoir prendre envers certains des vôtres. Je les connais, monsieur. Et vous admettez que votre cousine ait pu se jouer ainsi de moi? Nicole n'a fait, monsieur, que vous rendre la monnaie de votre pièce. Marquise, hasardait M. d'Érigny, je crains que vous n'ayez été fort inexactement renseigné. Non, monsieur. Je suis au contraire parfaitement au courant de tout, et je suppose que vous n'aurez pas l'insolente audace de nier que pour obtenir la main de Nicole, vous avez employé envers elle des moyens d'intimidation que vous me saurez gré de ne pas qualifier. » Cette fois, le fermier général venait de recevoir un de ces coups droits qu'il est impossible de parer. Aussi, sa riposte allait-elle s'en ressentir. « Marquise, fit-il en dominant mal le désarroi qui commençait à s'emparer de lui, j'étais éperdument amoureux. Ceci n'est pas une excuse. Un gentilhomme, ou tout au moins un personnage qui se prétend tel, devrait rougir de procéder pareil. Mais ne nous attardons pas en une discussion inutile. Qu'avez-vous fait de ma cousine ? » Bourré, d'un ton hésitant, répliquait « Marquise, à la suite du scandale provoqué par la demoiselle Malicet, scandale qui avait porté atteinte à mon honneur et que je ne pouvais laisser impuni, j'ai fait emmener cette personne dans un couvent. De quel droit ? En vertu d'une lettre de cachet que j'avais obtenue de Sa Majesté. Et moi, déclarait Madame de Pompadour, en foudroyant du regard le fermier général, en vertu d'un blanc-seing que m'a donné le roi, je vous somme de me révéler sur le champ l'endroit où vous avez relégué ma cousine. Sinon, je vous fais arrêter et emprisonner immédiatement. » Cette fois, Bourré d'Hérigny blêmit de colère et de peur. Mais, comme il gardait toujours le silence, la favorite, frappant du pied avec impatience, s'écriait « Eh bien, monsieur, j'attends !»« Votre cousine, reprit Bourré d'une voix sourde, est où l'on envoie ses pareils, c'est-à-dire à Grenoble, au couvent des repentis de Sainte-Madeleine. » « Monsieur Bourré d'Hérigny, s'écria Madame de Pompadour, vous avez fait là une bien vilaine besogne. » Et, tournant les talons, elle regagna le vestibule sans plus s'occuper du financier qui, à travers ses fenêtres, la vit rejoindre deux cavaliers qui l'attendaient dans la cour. L'un d'eux, un tout jeune homme, sautant à bas de sa monture, lui tendit l'étrier. Elle s'élança en selle et, suivie de ses deux écuyers, elle disparut dans la direction de Grenoble. Une heure après, elle frappait à la porte du couvent. Grande fut la surprise de la sœur Tourière lorsqu'elle aperçut, à travers le grillage de son guichet, la silhouette à la fois élégante et impérieuse de la marquise. Celle-ci lui présentait à travers le guichet le blanc-seing qui lui avait été signé par Louis XV et qui lui permettait de franchir aussi bien le seuil des monastères les plus clos que de pénétrer dans les prisons d'État les plus fermées. La Tourière s'empressait de lui ouvrir la porte et de la faire entrer dans un cloître dont les arceaux donnaient sur une cour austère. Immédiatement, la marquise attaquait. « Je veux voir Mademoiselle Nicole Malicet. » « Il faut d'abord que je prévienne Madame la supérieure, » déclarait la Tourière. « Faites vite, ma sœur. Veuillez, madame, entrer dans ce parloir. Non, je préfère attendre ici. » La supérieure, sortant de son oratoire, s'avançait vers elle en une attitude hiératique. La maîtresse du roi s'inclina vers elle. La religieuse, d'un léger signe de tête, lui rendit son salut. « Je suis la marquise de Pompadour, » annonçait la favorite. Ce nom, objet d'exécration pour les dévots, ne parut produire aucune impression sur la supérieure. La marquise de Pompadour poursuivait. Il y a quelques jours, monsieur le fermier général Bourré d'Hérigny a fait enfermer ici une jeune fille, Nicole Malicet, qui est ma parente. Je viens vous demander, madame la supérieure, de me la rendre. Hélas, répliquait la nonne, je ne puis accéder à votre désir. Cette jeune femme a été envoyée dans cette maison en vertu d'une lettre de cachet. Je ne puis donc la remettre en liberté que sur un ordre de Sa Majesté. « Le voici, » répliquait Madame de Pompadour en lui mettant sous les yeux le blanc-seing qui lui conférait les pouvoirs les plus illimités. La supérieure en prit connaissance et fit aussitôt « Que la volonté du roi s'accomplisse, madame. Je vais vous conduire auprès de votre parente et vous pourrez l'emmener dès qu'il vous plaira. » Madame de Pompadour, guidée par la religieuse, longea le cloître et arriva jusqu'à un jardin au milieu duquel se dressait un calvaire. Nicole était agenouillée sur l'une des marches de pierre. Une religieuse, doucement, l'exhortait. « Mon enfant, ne pleurez pas ainsi. Offrez pour votre salut le sacrifice de votre bonheur. Réfugiez-vous près de Dieu, qui pardonne. » Soudain, Nicole eut un cri de surprise et d'espérance. Elle venait d'apercevoir Madame de Pompadour. En un élan spontané, elle courut se jeter dans ses bras. « Vous ici » fit-elle. Vous avez donc eu pitié de moi ? Je viens te chercher, déclarait la favorite en la couvrant de baisers.
C'est impossible, je rêve.
Viens, ma chère petite. Nicole, en larmes, laissait retomber sa tête sur l'épaule de sa cousine.
Qu'est-ce donc ? Interrogeait madame de Pompadour.
Je pense à lui, ma chérie, et je me dis que, puisqu'il doit mourir, je suis morte pour le monde.
Nicole, écoute-moi.
La favorite se pencha à l'oreille de la pauvre enfant, toute secouée de sanglots, et elle lui parla à voix basse. Cette mystérieuse confidence parut apaiser la grande douleur de Nicole, dont bientôt la figure s'éclaira d'un doux reflet d'espérance. Puis, fébrilement, elle reprit
« Eh bien, ma cousine, puisqu'il en est ainsi, je pars avec vous !»
La marquise lui dit « Appuie-toi à mon bras !» Et toutes deux s'en furent saluer la supérieure qui s'était tenue à l'écart. Nicole, d'une voix encore toute tremblante, lui dit
« Madame, je vous remercie de la bonté que vous m'avez témoignée et du précieux réconfort que j'ai trouvé dans votre sainte maison. »
« Allez, ma fille, répliquait la nonne, et que Dieu vous garde. » Et après avoir esquissé un geste de bénédiction vers les deux cousines qui s'éloignaient sous le cloître, elle rentra dans son oratoire. Lorsque Nicole se trouva hors du couvent, on eût dit qu'elle respirait déjà plus librement, et, tout en enlaçant sa cousine, elle lui dit
« Maintenant, laissez-moi vous remercier, et de ce que vous avez fait, et de ce que vous comptez faire encore. »
Mais la favorite l'interrompait, et, lui montrant l'un des cavaliers qui se tenait près d'un carrosse que son compagnon était allé quérir dans la ville, elle fit, en un élan de réelle bonté,
« Remercie d'abord ce jeune homme, car c'est par lui que j'ai été prévenu et que j'ai pu te délivrer. »
Nicole adressait un regard de reconnaissance vers le cavalier, dont le regard exprimait à la fois une très grande émotion et une profonde tristesse, lorsqu'elle s'écria en pâlissant
« Thiénot le berger ?»«
Oui, moi, » répliquait Jeanne d'Estenave, en saluant Nicole avec un profond respect. « Moi, qui ai compris combien j'avais été méchante et injuste envers vous, et qui ai voulu réparer mes torts en cherchant à vous sauver en même temps que celui que vous aimez. »
Nicole, bouleversée, ne put que lui tendre la main.
« Maintenant, madame, vous n'avez plus rien à redouter de moi. J'ai fait le sacrifice de mon amour, comme j'avais fait celui de ma vie. » Et désignant le monastère, tout nimbé de l'auréole d'un soleil éclatant, elle ajouta « Dès que j'aurai terminé ma tâche, c'est là que je viendrai m'enfermer pour toujours. »
« Nicole !» s'écriait madame de Pompadour. « Courons à la prison de Grenoble. Tes parents doivent avoir hâte de te revoir. »
Et elle ajouta avec un charmant sourire.
« Ils t'ont assez cherché. »«
Ils doivent être furieux contre moi, » s'inquiétait Nicole.
« Maman, surtout. »
« Rassure-toi, ma belle. Je connais ma cousine. Elle a un cœur d'or. Et quand elle te verra, elle sera trop heureuse de te pardonner. »
Nicole ne se trompait pas. Madame Malisset était dans un état de colère que 15 jours de captivité n'avaient pas apaisé.
Sur l'ordre de Bourré d'Érigny, son mari et elle avaient été enfermés dans un cachot qui n'avait rien de très confortable et où, cependant, ils avaient été traités avec certains égards. En présence du temps qui s'écoulait, dans son ignorance complète des événements, Madame Malisset en arrivait à se persuader automatiquement que son mari et elle étaient destinés à demeurer en prison jusqu'à la fin de leur existence. Or, tandis qu'elle se répandait en imprécations contre Mandrin, Bourré d'Érigny et sa péronnelle de fille, et qu'Agénor cherchait à assommer avec son énorme soulier un non moins énorme rat qui s'était aventuré au centre d'un panier de victuailles, la porte du cachot s'ouvrait brusquement et le guichetier en chef interpellait.
« Le sieur Malisset, ici. »
Thérèse se précipitait en clamant. « Vous n'allez pas me le prendre !» Mais le guichetier en chef ripostait.
« Vous êtes libre, au nom du roi. »
À ces mots, les époux Malisset bondirent vers la porte.
insuffisamment large pour leur livrer passage en même temps, et ils y demeurèrent coincés, se débattant, criant, tempêtant, jusqu'à ce que le guichetier eût mis fin à leur délicate situation. Puis, les poussant vers la cour, il ajouta « Seulement, n'y revenez plus, ou bien cette fois, tâchez d'être coupable. » Les Malicets ne l'entendaient plus. Ils couraient de toutes leurs jambes vers la porte d'entrée, tant ils avaient hâte de respirer à plein poumon l'air de la liberté. Au bout de quelques pas, ils se heurtaient à leur servante Martine qui, les bras en l'air, poussait des cris de joie. « Toi, ici ? » s'exclama Thérèse. « Oui, madame, » expliquait la servante. « Je venais ainsi que chaque jour prendre de vos nouvelles. Figurez-vous que j'ai rencontré, mais je veux vous laisser le plaisir de la surprise. » Et elle s'effaça devant le couple Malicé, qui gagna rapidement le couloir voûté sur lequel s'ouvraient les portes du greffe, dont sortaient précisément Nicole et la marquise. À la vue de leur fille, tous deux s'arrêtèrent, suffoqués, cloués sur place. Nicole se dirigeait vers eux, les bras tendus, tendre et suppliante. « Arrière, mademoiselle !» s'écriait Malicé. « Vous nous avez fait vraiment trop marcher !» Sans s'en douter, le brave Agénor venait, par son attitude et son langage, de gagner involontairement la cause de sa fille auprès de sa femme. Celle-ci, en effet, en vertu de cet esprit de contradiction qui la caractérisait, attirait Nicole dans ses bras et, tout en la serrant contre sa plantureuse poitrine, elle lançait en pulvérisant son mari d'un regard indigné « Si vous n'aviez pas donné à votre fille l'exemple de tous les vices, moi ? Oh, peut-on dire de toutes les turpitudes ?» Mais Madame de Pompadour s'empressait de mettre fin à cette scène de ménage. « Trêve de discussion » imposait-elle avec autorité. « La cousine Antoinette !» s'écriait Thérèse qu'il n'avait pas encore aperçue. « Oui, moi. » « Et c'est grâce à elle !» s'empressait de déclarer Nicole. « Si vous êtes délivrée !» Avec son exubérance habituelle, Madame Malicé voulut sauter au cou de la marquise. Celle-ci, coupant court à ses effusions, ordonnait. « Vous me remercierez tout à l'heure, ce soir, demain, une autre fois. Pour l'instant, il s'agit de filer, et au plus vite. Nicole vous expliquera pourquoi. Une chaise de poste est là et va vous conduire en Suisse.
« Encore un voyage ?» geignait Malicé en s'affalant sur un banc.
« Ordre du roi !» martelait la favorite.
« Je veux rentrer chez moi !» s'obstinait Agénor.
Thérèse l'empoigna par le bras et, le secouant avec une force à laquelle les rigueurs de la captivité ne semblaient pas avoir porté atteinte, elle s'écria « Parce qu'il ressemble à Louis XIV, il se croit le droit de désobéir à Louis XV !» Et elle ajouta en trépignant
« Si tu veux rester,
reste, moi, je pars !»« Viens, Nicole, et toi aussi, Martine. Ma cousine, vous êtes un ange !»
« C'est cela.
Partez, partez !» encourageait Madame de Pompadour en poussant Thérèse vers la porte. Malicé, stimulé par Martine, se décida à emboîter le pas. Et tandis que le guichetier en chef donnait enfin la clé des champs à ses hôtes, Nicole s'approchait de la marquise et, tout en lui donnant un baiser, elle lui murmura
« Alors, vous croyez que je puis espérer ?»«
Silence !» recommanda Madame de Pompadour. « Compte sur moi, et j'espère que, d'ici peu, tu apprendras une bonne nouvelle. » Nicole s'en fut rejoindre ses parents, qui s'apprêtaient à monter en voiture, et la favorite, s'approchant de Thiénot, qui, toujours en cavalier, se dissimulait dans l'ombre, lui lança « Et maintenant, vite, en route pour Valence, car nous n'avons pas une minute à perdre. »